Et on retrouve tout de suite Mélève et Malka, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonsoir à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque samedi soir pour Mélève et Malka, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonsoir à vous.
Bonsoir et Shavuatov.
Shavuatov. Alors, un plein d'entrain pour commencer un nouveau chapitre dans l'étude de notre Torah. Et donc, on arrive à une paracha, un chapitre qui s'appelle Vaishlach. C'est le moment où Yaakov et Esav vont se rencontrer. Et en fait, c'est un peu mystérieux ce texte, parce que Yaakov a très peur de rencontrer son frère. Il lui envoie des cadeaux, il nous explique comment on fait, il divise en deux. Enfin bon, il fait toute une division de sa famille, il fait toute une histoire. Mais il y a quelque chose qui vous interpelle dans cette histoire, c'est Esav. On réfléchit tous sur Yaakov, évidemment, mais Esav. Esav vend son droit d'aînesse, garde une rancune incroyable à son frère. Il vient avec des hommes en armes par centaines pour l'assassiner. Mais il a vendu son droit d'aînesse, il n'en veut pas. Il n'en voulait pas. Alors, c'est ce sujet-là qui vous interpelle aujourd'hui, Rav Lemel.
Exact. On a en effet, alors ça serait un très long développement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé au niveau des bénédictions. Ce qui est sûr, c'est qu'on se rappelle que Esav voue une haine tenace vis-à-vis de Yaakov, considérant que celui-ci l'a escroqué. Et au passage, c'est juste une parenthèse. Souvent, les gens disent, oui, vous rendez compte, Yaakov, il a eu les bénédictions comme ça. Je me permets de leur dire, mais vous pensez vraiment que la Torah s'amuse à raconter des choses qui sont contre nous? C'est-à-dire, il n'y a rien de terrible, il n'y a rien de plus terrible que dire, bon, mais on va vous raconter comment on a été des gens très mauvais. Donc, évidemment, ça demande une vraie explication, et c'est passionnant d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui est sûr, c'est que Esav a vendu son droit d'aînesse, donc Yaakov a droit aux bénédictions. Pourquoi il va les obtenir de cette manière? C'est un autre sujet, mais concrètement, Esav, il veut le tuer, et voilà, mais pourquoi? Et surtout, même si Esav tue Jacob, il va tuer Yaakov. Alors très bien. Et donc, les bénédictions ont été données à Yaakov. Donc ça ne va rien changer. Et ça, c'est la question qui est évidente. Surtout, rappelons-nous qu'Esav va recevoir lui aussi des bénédictions, et pas n'importe lesquelles. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi, au fond, il y a cette dimension tellement forte? Et l'introduction de ce que Yaakov va faire dire à son frère est très intéressante. Il lui dit, bon, ben, tu diras à Esav, « Im lavan garti vaecharadata »« Avec Lavan, j'ai habité, je n'arrive que maintenant. » Et Rachi, sur place, nous dit, « Garti, j'ai habité chez Lavan. » Lavan, son beau-père aussi, qui est quand même un peu crapule, même beaucoup d'ailleurs. Et il dit, « Garti, c'est la même valeur numérique que Tariag. » Tariag, c'est 613. Et Yaakov fait une allusion, en tout cas dit le texte, à Esav en lui disant, tu sais, hein, j'ai habité chez Lavan, mais j'ai gardé les 613 mitzvot. Quel est le rapport et qu'est-ce que ça peut lui faire à Esav? Ça veut dire que Yaakov, au fond, dit, j'ai gardé mon identité. Et au fond, à travers cela, Yaakov nous donne, le texte en tout cas nous ouvre à une compréhension sur ce qui se passe réellement dans ce conflit. Yaakov avait vécu avec Lavan. Lavan, c'est son beau-père. Lavan, c'est un escroc. Lavan, c'est quelqu'un qui a des valeurs éthiques extrêmement borderline. Mais Yaakov a réussi à rester lui-même tout en étant chez lui. Et au bout d'un moment, ayant des enfants, il se rend bien compte que les enfants risquent d'être imprégnés. Donc il se lève et il part. Mais quelque part, lui, en tant qu'individu construit, mais il est resté là-bas. Ça veut dire qu'il a réussi à rester lui-même dans un environnement qui était légèrement toxique ou qui ne correspondait pas à ses valeurs. Et ça, Esav le sait. Esav sait parfaitement que Yaakov, sa force, c'est de rester lui-même, quel que soit son environnement, dans la mesure où justement, il s'est construit. Et c'est intéressant de voir, je fais une parenthèse, que Yaakov dit, au moment où vous construisez un enfant, vous ne pouvez pas l'exposer à des milieux contradictoires. Vous allez l'entendre au second degré, c'est comme si on disait, ben voilà, on a envie de donner à nos enfants des valeurs, mais on les fait aller dans une école ou dans un quartier dans lequel, malheureusement, et c'est tellement dommage, eh bien, les valeurs qui circulent et le quotidien est totalement opposé à ces valeurs. Au bout d'un moment, l'enfant, il se retrouve plus, il ne sait plus où il est. Donc, évidemment que Yaakov, en ce qui concerne l'éducation, dit non, à un moment, il faut que je leur donne une colonne vertébrale qui soit claire, parce que justement, ils vont par la suite être dans le monde et rencontrer Esav. Pourquoi ? Parce que Yaakov, rappelons-nous, a reçu des bénédictions qui sont des bénédictions matérielles aussi, n'est-ce pas ? Et ces bénédictions matérielles vont faire que Yaakov va évoluer dans une société matérielle, c'est-à-dire que Yaakov va se retrouver dans un monde dans lequel, eh bien, il sera serrurier, plombier, médecin, avocat, chercheur, électricien, tout, d'accord ? Homme comme femme. Et qu'est-ce qu'Esav, au fond, a comme difficulté ? C'est qu'il va rencontrer donc Yaakov sur le même terrain que lui, c'est-à-dire dans un monde de travail, dans un monde de recherche, dans un monde de business, dans un monde de ce que vous voulez, et un Yaakov qui va voir et qui va continuer à vivre ses valeurs. Et c'est ça qui pose problème au fond. Parce que vous savez, quand vous êtes dans un monde dans lequel vous êtes prêt, et ce sont des choses auxquelles j'étais confronté, et j'ai pu les voir, et je trouve ça absolument incroyable, je suis en admiration, des personnes sont là et sont prêtes à renoncer à un avancement dans leur carrière pour ne pas se retrouver être obligées à ne plus pouvoir s'occuper comme ils le désirent de leurs enfants. Quand vous voyez des personnes qui ne vont pas signer de contrat parce que c'est Shabbat, quand vous voyez des personnes qui sont prêtes à un moment à mettre de côté certaines choses parce qu'ils ont des fondamentaux, quand vous voyez des personnes qui au quotidien fonctionnent suivant leur morale et l'éthique qui a été proposée par la Torah, malheureusement pas tout le monde y arrive, mais c'est très bouleversant. Au fond, le problème qu'a Esav, c'est quoi ? C'est la confrontation à Yaakov, quand Yaakov va être dans le même univers que lui, mais va lui proposer une autre lecture, une autre vision et une autre manière d'appréhender le quotidien. Si Yaakov est, j'ai envie de dire, dans sa yeshiva, c'est-à-dire s'il n'est nulle part, si on ne le voit pas, s'il est dans son univers, oui, Yaakov a été dans la yeshiva, mais pour se construire et pour aller explorer le monde. Il a pris le temps, en effet, de se préparer à cette rencontre avec l'univers dans lequel il se trouve, dans lequel il va participer, dans lequel il va agir. Le peuple juif agit dans le monde, il donne dans le monde, il fait tellement de choses. Mais il a des fondamentaux qu'il a inscrits à l'intérieur de lui et continue à les vivre. Et plus que cela, il ne cherche pas à persuader les autres de les vivre. Il ne cherche pas à pousser les autres à rejoindre le peuple d'Israël. Il dit juste, voilà, je suis dans le même monde que toi. Je ne t'oblige pas, évidemment, à suivre ma vision de l'existence, mais je continue à la vivre. Évidemment, ici, il y a quelque chose qui est très fin, parce qu'il faut toujours savoir à ce moment-là, qu'est-ce que veut dire vivre suivant ses convictions ? Mais vivre suivant ses convictions, c'est être capable d'être positionné clairement, et à partir de là, être capable d'avancer, de construire tranquillement et normalement. Et ça, c'est en effet ce qui va se passer. Yaakov sait très bien que Esav lui en veut à cause de cela. Et parce qu'il sait que Esav lui en veut à cause de cela, alors il va lui envoyer des cadeaux pour lui dire « Esav, écoute, ça ne sert à rien ». Mais quelque part, on voit bien ici l'enjeu de tout ce qui va se jouer tout au long de l'histoire. Et c'est peut-être ici où il y a un travail à faire. C'est de continuer justement à garder cette identité de manière claire, d'avancer et de construire, de rester soi-même sans imposer aux autres, et à partir de cela, de créer véritablement un système, une société dans laquelle on s'enrichit les uns les autres et on arrête d'avoir peur les uns des autres.
Rav Lemel, on va essayer d'être nous-mêmes déjà. On va commencer par ce soir, ça sera déjà pas mal. C'est tellement beau ce que vous avez dit, est tellement difficile. On va être intègre ce soir déjà en étant en plein dans le Shabbat. Rav Lemel, vous aviez un peu sollicité les auditeurs pour tout le travail que vous accomplissez, qui est absolument... les gens ne se rendent pas compte. Hein. C'est, pour nous, Rav Lemel, c'est évidemment l'association Lève, mais moi, pour moi, en priorité, ça veut dire ramener les gens à la Torah, quoi, faire des activités, des cours, etc. Mais il y a beaucoup plus. Vous aidez les pauvres, vous faites des... c'est vraiment, c'est beaucoup, beaucoup. Je sais, j'ai vu l'organigramme, et vous vouliez demander aux auditeurs de ne pas oublier de concrétiser leurs dons, et comment ils font ? Parce que, en fait, vous n'avez pas encore atteint totalement vos objectifs.
Très sincèrement, je ne m'attendais pas du tout à ce que vous évoquiez cela. Lève, comme toute organisation, a besoin de fonds pour avancer, donc S'il y a des personnes qui ont envie d'être partenaires, c'est vraiment super, super gentil de leur part. Ils peuvent nous envoyer un mail à lev@associationlev.fr, .com, pardonnez-moi. Et puis, en tout cas, je vous remercie d'avoir évoqué cela.
Je vous en prie.
Et que moi, ce que je souhaite, c'est que tout le monde fasse ce qu'il doit faire et que ça profite au peuple juif. Parce que, je vais vous dire, ce qui est le plus important dans la vie, c'est quand vous savez que les gens s'impliquent pour leur peuple. Et je trouve extraordinaire quand je vois dans la communauté toutes les personnes qui, sur de multiples actions, s'investissent, parce qu'on travaille tous pour le même patron, ne l'oublions jamais, vous aussi, et quelque part, c'est ça, la beauté du peuple juif.
Magnifique. On a eu droit en plus à de très belles paroles supplémentaires. Redonnez-nous le mail, s'il vous plaît, le mail.
Alors, le mail, c'est lev@associationlev.fr.
Magnifique. Et il y a aussi un site internet, il y a une page Facebook. C'est très facile de retrouver Lev si on a envie. Ouais. On va sur Google, on nous-mêmes cherche un numéro de téléphone. Nous, Radio Shalom, on lancera notre appel dès demain sur Allo Don. Ceux qui veulent aider le combat pour ce que fait Radio Shalom, la vie de notre communauté avec un média, c'est tout à fait différent. Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Il faut, comme soulignait le Rav à l'instant, il faut tout. Et voilà. Et il faut la solidarité de ceux qui veulent nous aider. Rav Eli Lemel, merci à vous. Et
Shavuot Tov. Shavuot Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton. Rav Mordechai, bonsoir à vous et Shavuot Tov.
Shavuot Tov, Shavuot Tov, des très bonnes nouvelles pour nous tous.
Amen, amen. Rav Mordechai, alors, on poursuit l'étude de notre paracha et vous voulez vous intervenir sur ce qu'on pourrait appeler l'éternelle étrangeté du juif. Alors évidemment, vous puisez cette réflexion dans notre chapitre de cette semaine. Par exemple, on dit « anigarti », j'ai habité, qui est un hébreu très courant, mais qui est de la lachon guerre. J'étais étranger, j'étais tout le temps. Un juif, finalement, il se retrouve toujours étranger. Même beaucoup de penseurs comme vous ne sont pas certains que quand on est en Israël, l'exil est vraiment terminé, puisqu'on n'a pas reconstruit. On pourrait faire mieux. C'est quoi cette idée d'étrangeté du juif et qui semble être une permanence quand même, c'est pas seulement...
Tout à fait, bah, quand Yaakov s'adresse donc à Esav, il lui dit, regarde, im lavan garti, j'ai habité avec Lavan. Lavan, garti, le mot garti, ça s'attache au mot guerre, c'est j'ai habité comme un étranger en fait, j'ai habité là-bas. C'est très étonnant parce qu'en fait il a été un acteur économique majeur. Il a complètement développé la fortune de Lavan, que Lavan a fini par perdre, parce qu'il a voulu tuer Yaakov, il a voulu se débarrasser de Yaakov, mais ça n'a pas marché. Donc dire que Yaakov dise de lui-même, j'ai habité, mais un peu comme un étranger finalement, alors qu'il a été un acteur économique majeur pour Lavan, c'est un petit peu étonnant. Il y a aussi un autre fait qu'on voit dans la paracha précédente, c'est que dans le rêve de l'échelle, Yaakov, il n'est pas sur l'échelle, il est devant l'échelle. Il regarde les anges monter et descendre. Les anges, c'est les figures des exils, donc des puissances qui vont dominer le monde. Mais Yaakov, en tant que représentant d'Israël, du peuple juif, il fait partie de l'histoire. Pourquoi il n'est pas sur l'échelle? Pourquoi il est à l'extérieur de l'échelle? Parce qu'en fait, il est le moteur de l'histoire, mais en même temps, il a une place particulière qui le met un petit peu, d'une certaine manière, à l'extérieur de l'histoire. Alors, il faut expliquer pourquoi et comment. D'une certaine manière, la place de Am Israël, du peuple juif, depuis qu'on a reçu la Torah, en fait, même avant, depuis Yaakov Avinu, c'est ça qu'Yaakov nous dit, c'est qu'en fait, le juif, il incarne quelque chose. Il incarne quelque chose qui est dans le monde, mais qui n'est pas de ce monde. Il incarne quelque chose qui est dans ce monde, c'est de faire des mitzvot et de vivre, et de faire ce que tout le monde fait, mais de le faire avec Hachem. Et quelque chose qui n'est pas de ce monde, parce que la loi qu'il incarne est une loi qui n'est pas venu de ce monde et qui n'a pas été créé par des hommes. Contrairement aux autres religions, où tout a été forgé par des gens qui se sont présentés comme prophètes. Là, ici, il y a un texte qui est le fruit d'une rencontre. Et en fait, Yaakov, c'est ça qui transporte. Il dit à Esav, il lui dit, tu sais, regarde, moi j'ai reçu la bracha de la bénédiction de l'Israël, regarde, De toute façon, je suis resté ce que j'étais. Je ne te menace pas, parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui est dans l'histoire, mais d'une certaine manière aussi, à côté de l'histoire. Mais en même temps, je fais l'histoire, mais en même temps, je ne suis une menace pour personne dans l'histoire. Et là, il y a quelque chose de très intéressant, parce que cette posture, qui est une posture étrange, c'est précisément ce qui fait que le juif est considéré finalement comme quelque chose d'étrange et de menaçant. D'accord, les juifs ont été accusés de tout, tout au long de l'histoire. S'ils étaient riches, on les accusait d'être riches, des pauvres, ils étaient pauvres. Maintenant qu'ils ont une terre, on les accusait d'avoir une terre. Quand ils n'avaient pas de terre, on les accusait d'être des apatrides. Bref, le juif restait un objet d'inquiétude, précisément parce qu'il n'obéit pas aux lois classiques de l'histoire. Les peuples, ils sont dans l'histoire, ils font l'histoire, ils peuvent disparaître de l'histoire. Le juif ne disparaît jamais de l'histoire, mais il est à la fois dedans et dehors. Donc il y a ici un thème qui est un thème fondamental, et c'est le thème de l'affrontement avec Esav. Parce que Esav, lui, la bracha, la bénédiction qu'il a reçue, c'est « Al-Kharbecha Tri, tu vivras par ton épée ». Et cette épée, c'est l'épée du pouvoir politique, l'épée du pouvoir militaire, c'est l'épée de la domination, c'est l'épée de l'impérialisme, c'est l'épée de la capacité à dominer le monde, et d'une certaine manière à dire « qu'est-ce qui fait l'histoire ?» Ben, c'est l'épée, c'est le canon, c'est l'armée, c'est ça qui fait l'histoire. C'est d'être un État. C'est d'être un État. Et pour le juif, ce n'est pas tout à fait comme ça. Pour Am Israël, ce n'est pas le destin. Le destin d'Am Israël, contrairement à ce qui est marqué dans la Megillat Atzmaout, l'acte d'indépendance d'Israël, n'est pas né en Eretz Israël. Il est né dans le désert. Mais avec Yaakov, qui est le parangon, l'incarnation même du juif en exil, c'est beaucoup plus radical que ça. Le peuple juif n'est pas né dans le désert. Il est né dans la négation de la vanne. La vanne a tout fait pour nier Yaakov, il a tout fait pour le priver d'une descendance, donc il a interverti ses femmes. Il a tout fait pour le priver économiquement, il a essayé de lui voler son argent, et même il voulait le tuer à la fin. Esav veut le tuer. Le juif est né dans un esprit de négation. Lui, il est là, il incarne ses valeurs, il incarne. Il va aller, avant d'aller chez Lavan, il est parti 14 ans étudier chez Shem et Ever. C'est la Torah, il l'incarne. Mais dans l'esprit des nations du monde, il est né au milieu d'une négation. Et le juif, par son existence, Am Israël, le peuple juif, par son existence, une existence de Torah, une existence spirituelle, incarne la permanence d'une thématique, on va dire, spirituelle. Voilà, nous sommes un peuple qui incarne une spiritualité devant des gens qui lui disent non. On est le seul peuple à qui l'humanité tout entière dénie le droit d'exister. C'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et ce déni d'existence, il ne vient pas d'un fait politique. Il vient d'un fait spirituel qui est lié à l'ontologie, à l'être même du juif, c'est que c'est d'abord un être spirituel. Et ça, c'est une idée intolérable pour Lavan, pour Esav, et pour Ishmaël, et pour tous les empires qui vont suivre derrière. C'est une idée qui est absolument intolérable. C'est la raison pour laquelle, très souvent, quand je vois des hommes politiques juifs porter de manière pitoyable des idéologies politiques, je me dis que vraiment, ces gens-là ont été privés de nos textes, et c'est bien dommage. C'est très bien dommage parce que s'il lisait correctement, par exemple, cette section hebdomadaire, il verrait à quel point le rôle du juif, bah, c'est d'incarner un héritage spirituel au milieu de configurations politiques ou géopolitiques. C'est d'abord ça son rôle. C'est d'abord ça le rôle du juif. Et c'est ce que Yaakov dit quand il dit « Im Lavan Garti, j'ai habité avec Lavan. J'étais un acteur économique majeur. Mais tu vois, j'ai pas grand-chose aujourd'hui. Et de toute façon, je ne menace personne. Mais toi, tu me vis comme une menace. Parce qu'en vérité, tu n'arrives pas à comprendre qui je suis. Je ne vis pas dans tes catégories, je suis inquiétant pour toi, je reste étrange. N'aie pas peur. Et en fait, non. D'une certaine manière, bah, cette étrangeté, elle suscite l'inquiétude, parfois l'émerveillement, parfois l'agacement et parfois la haine, mais toujours, toujours un sentiment d'avoir affaire à quelque chose de très particulier. Bah, il faut le garder, ça. Il faut le garder, il faut se souhaiter qu'on reste effectivement très particulier avec cette Torah qu'on a sur mon Sinaï, avec l'héritage de Yaakov. Voilà, mon ami, c'est ce qu'on peut dire sur cette page. En se souhaitant à toutes et à tous, Shavu Tov, et qu'on ait de bonnes nouvelles. On a reçu de bonnes nouvelles, puisqu'il y a un corps d'otage qui a été rendu. Ouais. Il sera mérité d'être en Eretz Israël, et on souhaite que
les deux derniers
soient derrière nous très rapidement.
Voilà. Et que les deux derniers rentrent déjà. En vous écoutant, je me disais, oui, mais Yaakov, il s'appelle Israël, donc voilà, il nous représente vraiment tous. Est-ce que je peux vous poser une question avant d'être?
Avec un immense plaisir.
Alors, est-ce que vous savez que nous, dimanche, on va lancer une campagne auprès des auditeurs pour nous soutenir, pour nous donner les moyens d'intervenir, notamment pour nous développer sur Internet. Pourquoi est-ce que... Pour...
Réussite.
Pardon ?
Je souhaite bonne réussite.
Merci. Pourquoi est-ce que pour vous Radio Shalom est important? Qu'est-ce que vous diriez?
Je dirais d'abord parce que c'est une radio indépendante, comme vous la dirigez avec votre associé. C'est une radio qui ne dépend pas de grands groupes de communication, qui ne dépend pas d'un ensemble politique. Ça détonne hein, dans le paysage audiovisuel aujourd'hui. C'est une radio indépendante. Et c'est la raison pour laquelle je dirais qu'il faut un média comme celui-là. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que c'est un média qui permet finalement à une parole de Torah de s'exprimer en direction d'un public très large, et c'est très important. C'est très important que ça soit fait. Alors, c'est peut-être pas spécifique à Radio Shalom, mais c'est fait quand même de manière très spécifique, puisque cette émission de Kabbalat Shabbat ou de Shavuotov, selon les saisons, c'est quand même une émission dans laquelle on imprime un format qui est un format de parole de Torah, de Dvar Torah, d'enseignement, de mini-conférence en quelque sorte, qui permet quand même de faire passer des thèmes, on va dire, dans un esprit de bêta-midrash, dans un esprit d'étude. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est le deuxième point. Et puis, la troisième chose, je crois tout simplement qu'il faut du pluralisme. Et c'est très important dans le paysage juif bah, d'avoir du pluralisme. Et effectivement, pour ça, il faut des organes de presse indépendants, ce qui est la caractéristique de Radio Shalom. Encore une fois, c'est un média qui ne dépend d'aucun grand groupe communautaire. Et c'est très bien comme ça.
Merci beaucoup, Avman Derhabiton. Je suis très touché. Et donc, effectivement, on lance une campagne Allodon. D'ailleurs, les gens connaissent le principe par cœur. Ils se rendent sur allodon.fr. Ils cherchent Radio Shalom, qu'ils écrivent avec un S, S-H-A-L-O-M. Et là, ils peuvent nous soutenir de manière à ce qu'on continue à porter cette parole que vous venez de décrire. Rav Mordechai Derhabiton, je vous remercie. Et Shavua Tov.
Shavua Tov.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gay. Bonsoir Rav Gay et Shavua Tov.
Bonsoir et Shavua Tov.
Rav Gay, on voit au début de notre paracha Yaakov multiplier les gestes, comment les appeler, de bienveillance, c'est des plus cadeaux. Que ça. Il multiplie les cadeaux, il parle à son frère, ça, il lui dit « mon maître », des choses incroyables. Et on se pose un peu la question comment un tzaddik du niveau de Yaakov peut se rabaisser. On se pose cette question depuis des siècles. Comment Yaakov agit de cette manière-là face à quelqu'un qui est très loin d'être un modèle? Donc c'est sur ce sujet-là que vous voulez intervenir ce soir, Avgay.
Oui, effectivement, je voulais rappeler les propos du Rav Dessler dans son livre Mirta Meniaou, dans lequel il rapporte l'avis du Zohar Kadosh. Où le Zohar Kadosh explique que lorsque Yaakov se prosternait devant Esav de nombreuses fois, la Shekhina, la présence divine, était derrière Esav et qu'en fait, il ne se prosternait pas à Esav, mais à la Shekhina qui se trouvait derrière. Évidemment, les gens qui observaient la scène ne voyaient pas la présence de la Shekhina, mais c'était le cas. Alors, l'explication que donne le Rav Dessler sur ce Zohar Kadosh est très intéressante. Il nous dit qu'en fait, si Yaakov le fait, c'est que c'est la volonté d'Hachem, que quelque part on montre une certaine allégeance à Esav. Attention, allégeance ne veut pas dire qu'on adhère à son système, simplement un respect et une volonté de bien s'entendre en lui faisant comprendre que quelque part on cherche non pas la confrontation, mais le respect mutuel. Et en fait, lorsqu'on dit qu'il se prosterne devant la Shekhina, il se prosterne devant la volonté divine qui lui impose quelque part de faire semblant devant Esav d'être vraiment dans un état de servitude, d'aliénation de soi totale, alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Au fond de lui, Esav, Yaakov n'a pas cette volonté, ni même cette admiration qu'on pourrait lui porter lorsqu'on le voit se prosterner. En fait, il dit Adoni Esav, mais il n'y pense pas un instant. Alors, je voudrais expliquer un peu pourquoi c'est comme ça. Effectivement, c'est choquant. En fait, Hachem a dit a voulu, parmi les différentes épreuves que nous avons avant la fin des temps, c'est que Esav va souvent avoir une position dominante. Et Hachem nous déconseille, nous demande de ne pas se confronter à Essav. Les Tanaïm, les grands maîtres de la Mishnah, avant de rencontrer les dignitaires romains, ils se préparaient en étudiant la paracha de Vaishlar, c'est-à-dire en multipliant également les cadeaux aux empereurs romains pour leur expliquer que leur volonté n'était absolument pas de s'opposer à Essav. Essav a besoin de sentir que Yaakov est un peu son vassal pour qu'il se calme. Sinon, Essav devient extrêmement agressif et il impose à Yaakov énormément de choses et ça peut nous coûter très cher. Alors, on peut se demander, mais pourquoi Hachem fait les choses comme ça? Pourquoi est-ce qu'il nous impose une telle situation? Ben justement, ça fait partie des différentes épreuves dans lesquelles Hachem nous met pour tester notre fidélité. Est-ce que nous sommes capables, tout en faisant un peu ce que Essav veut? Alors, je vais prendre en traduction très moderne. Aujourd'hui, nous vivons dans une société, donc la civilisation occidentale, dans laquelle il est évident que nous comportons, et c'est comme ça qu'il faut le faire, avec beaucoup de respect sur les autorités qui sont en place. Il ne s'agit absolument pas de nous opposer à eux, d'avoir de l'arrogance en face d'eux. Tout au contraire, c'est de les respecter, de les remercier aussi pour les différents services qu'ils mettent à notre disposition et qui nous permettent de vivre dans un certain confort en dehors d'Israël. Et donc, cette attitude, elle est toujours d'actualité. Et effectivement, lorsque l'on fait des cadeaux et ça, on pourrait, nous les Juifs, s'oublier, s'assimiler, comprendre que finalement, ben voilà, on leur donne du respect, c'est-à-dire quelque part, on veut devenir comme eux, on veut se fondre à cette situation. Et non, Hachem dit que ça fait partie des grandes épreuves de la fin de l'été temps, enfin, pas seulement la fin des temps, ça fait quelques même centaines d'années, voire des milliers d'années que nous sommes dans cette situation, où nous devons en même temps composer avec Essav, des fois lui faire des courbettes, mais absolument pas être en phase avec lui, surtout pas ne pas être dans une soumission au niveau de l'esprit, au niveau de la religion, au niveau que ce soit. Nous avons notre religion, nous avons nos valeurs, nous respectons Essav parce qu'il nous fait, il organise, il est très très bon techniquement parlant, il sait bien organiser les choses, et donc nous profitons aussi de ces belles réalisations technologiques et scientifiques. Donc nous le remercions pour cela, nous reconnaissons cette force, mais nous restons nous-mêmes. Nous restons un peuple attaché à une spiritualité forte et qui ne pense pas qu'on puisse, dans notre vie, n'avoir comme seul objectif que d'avoir un monde plus confortable et plus pratique. Nous avons des visions plus élevées, nous voulons servir Hachem. Seulement, Dieu nous demande de faire semblant d'être totalement dans le respect absolu, oui, effectivement, le respect, oui, mais pas plus, pas l'admiration. C'est la différence à faire entre respect et admiration. Et encore, nous pouvons même admirer quand même ces relations scientifiques, même ça, c'est possible. Mais ne pas penser que c'est ça la réussite de l'homme. L'homme, dans une société réussie, ce n'est pas une société qui fait des grandes découvertes technologiques. Et ça, l'histoire nous le montre. On est quand même, depuis quelques années maintenant, dans une société absolument brillante en termes de réalisation technologique absolument incroyable. C'est impressionnant ce que Essav est capable de réaliser. Ça nous laisse bouche bée. On est impressionné. Mais le fait de pouvoir réaliser ces progrès technologiques qui vont permettre à l'homme de vivre plus confortablement, ce n'est pas ça le but de l'homme sur Terre. L'homme sur Terre, sa construction, c'est d'être un mensch, comme on dit en bon français, c'est-à-dire être un homme avec des valeurs et une construction dans le domaine humain, dans la foi dans son créateur, et en même temps dans une grande fidélité par rapport à son épouse, un bon père, un bon mari et un bon éducateur par rapport à ses enfants, etc., etc. C'est-à-dire des valeurs humaines, des valeurs sociales, des valeurs éthiques et de morale que la Torah nous enseigne, mais tout en respectant et en admirant les réalisations et en remerciant Essav pour ces belles réalisations dont nous profitons. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais effectivement, ça crée un choix difficile, des fois des errances de notre part. Nous pouvons nous oublier que nous avons quelles sont nos valeurs et complètement adopter la philosophie d'Essav, ce qui n'est pas bon. Nous avons notre philosophie, notre échelle de valeurs et nous ne devons pas nous prosterner, entre guillemets, totalement devant Essav, dans le sens, nous ne devons pas l'admirer à 100%, nous devons comprendre qu'il a des forces, mais que nous en avons d'autres et que c'est à nous de les promouvoir, de les transmettre. Donc se prosterner, ça ne veut pas dire tout simplement s'annihiler, se disparaître devant lui. Voilà l'épreuve, entre guillemets, du juif depuis que Essav est un peu à la tête de l'exil qui dure depuis très longtemps, depuis la destruction du second temple quand même. C'est lui qui a détruit le second temple et puis qui continue à être le leader du monde libre. Donc c'est un peu la difficulté que nous avons avec Donald Trump, qui est un personnage qui nous a rendu a priori de très beaux services, puisqu'on est en train de récupérer les derniers corps des otages et des otages vivants, et qui en même temps un monsieur qui fait beaucoup pour l'État d'Israël et qui en même temps ne doit pas nous faire oublier que voilà, ce n'est pas un juif, ce n'est pas un monsieur qui a ces valeurs-là, il apporte d'autres valeurs. On le remercie pour tous les services et en même temps, il ne faut pas devenir américain ni comprendre que ne pas se vendre son âme. On est ce qu'on est, on a nos valeurs et puis merci de nous rendre tous ces services et on espère que, que ça apportera vraiment la paix en Israël et pas autre chose. Mais tout ça, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas pour ça qu'il faut absolument devenir le 51e ou le 52e étoile du drapeau américain. Donc, on est Israël, on a notre propre fierté, notre valeur. Et puis voilà, un peu ça, je pense qu'il faut apprendre, une des choses, qu'il faut, de nombreuses choses qu'il faut apprendre à la paracha de Vaishnav.
Rav Gay, merci pour ces belles paroles qui vont nous renforcer. Donc, à être fier en fait de nous. Je voudrais profiter des quelques mots que vous avez dit, et même d'ailleurs un peu aussi de votre présence, pour dire que nous avons lancé un allodon pour aider Radio Shalom à poursuivre son action, pour ceux qui veulent participer à cette bataille de l'information, ceux qui veulent nous aider en fait. Donc il y a une page allodon, tout le monde connaît le principe, aujourd'hui il est très simple, allodon.fr. Il faut chercher l'association Radio Shalom. Radio Shalom s'écrit avec un S, S-H-A-L-O-M, et là, donner le soutien que l'on souhaite pour cette mission que nous accomplissons. Et je suis sûr, Rav, que nous avons votre bénédiction pour cette action.
Parfaitement, ma bénédiction pour la réussite de cette campagne. C'est jamais facile de lever des fonds. Et c'est vrai que c'est un travail important, très important de transmettre certaines valeurs et de nous informer sur la véritable situation et de lutter contre la désinformation dont nous avons donc été tellement victimes et encore, nous sommes encore victimes. Donc merci à Radio Shalom et merci à tous ceux qui s'associeront pour la soutenir.
Merci Rav Gay. Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. C'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes, en premier au Rav et ensuite à nous tous, Shavuot Tov. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai, Hashem lo yine bayis. Shalom leboy na boy, Hashem lo yishmarihi. Shav shokat shoy mai.